On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous, vous pouvez devenir des stars, ouais. Vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. Regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous rassembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu la dernière fois l'importance du mensonge, qui était un des socles de l'univers du goulag. Sans le mensonge, le goulag n'aurait pas pu exister, ni si intensément, ni si longtemps. Et revenons aujourd'hui sur le mensonge, puisque c'est un des éléments capitaux un moyen capital de la tyrannie, un moyen essentiel utilisé par Satan pour détruire la création. C'est pas pour rien que le huitième commandement nous est interdit. Parce que ça a des conséquences sociales effrayantes, effrayantes. Il suffit, aujourd'hui, on est les témoins de cela. Un mensonge de pandémie a ruiné des millions et des millions de personnes, a déprimé des millions et des centaines de millions de personnes, a emprisonné des milliards de personnes. Un mensonge véhiculé par des hommes sans conscience, qu'ils soient médecins, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient politiciens. Un mensonge, un seul mensonge. Donc l'enfer du goulag n'aurait pas pu s'installer sans le règne du mensonge et aussi des mouchards, de ceux qui répètent le mensonge, par intérêt ou par peur, et peu importe. Et à l'intérieur même du goulag, nous avions vu, ces victimes étaient prêtes à succomber à la tentation et bien de la délation, du mensonge. Eux aussi vont coopérer. Tout le monde a peur, tout le monde ment, parce que tout le monde veut sauver sa peau, on l'avait vu, à tout prix. Et Solzhenitsyn lui-même a succombé à cette tentation. Il était en conversation avec un commissaire politique dans le goulag et celui-ci lui demande son aide pour dénoncer les truands du camp, donc les bandits. Et Solzhenitsyn se dit, après tout, les truands, ce sont des gens qui sont malfaisants, donc les dénoncer, ce n'est pas une mauvaise action. Ce sont des ennemis impitoyables et donc la seule chose importante de toute façon, c'est de m'en sortir. Donc je ne fais pas de mal et en plus, j'en profite. Donc il accepte ce contrat avec le commissaire politique. Mais voilà qu'on lui présente un document où il doit prendre l'engagement de signaler aux délégués opérationnels du camp tous les projets d'évasion des détenus. Maintenant, écoutons la suite du drame qu'il est raconté par Solzhenitsyn lui-même. Mais nous parlions à l'instant de truands, pas de détenus, parce qu'on l'a vu, dans le goulag, 50% des détenus sont des innocents. Donc ils peuvent chercher aussi, eux aussi, à s'évader. Mais qui donc s'évade hors dehors des truands, répond le commissaire. Et puis comment écrire le mot truand dans un document officiel? C'est de l'argot. On comprend bien comme ça. Oui, mais le sens se trouve complètement modifié. Et là, le commissaire répond à Solzhenitsyn, non, décidément. Je le vois bien, vous n'êtes pas des nôtres. C'est d'une toute autre manière qu'il faut vous parler à vous. Et puis ailleurs qu'ici. Et là, Solzhenitsyn remarque, oh comme ces mots font peur. Comme ces mots font peur, ailleurs qu'ici. Là, il était encore dans un univers protégé. Quand la tempête de neige bat à la fenêtre, quand on est bien planqué. Et puis, où cela, ailleurs? Et puis, comment cela d'une toute autre manière? Et puis, enfin, il n'y a pas eu une seule évasion depuis que je suis au camp. La probabilité est aussi faible que la chute d'une météorite. Et s'il doit y avoir des évasions, quel est l'imbécile qui irait m'en parler en premier? Donc je n'en aurais pas connaissance, donc je n'aurais rien à signaler, et en fin de compte, ce n'est pas donc une mauvaise solution du tout. Oui, mais seulement. Seulement, on ne peut vraiment pas se passer de ce papier. Alors, réponse du commissaire, non, c'est le règlement. Solzhenitsyn soupire. Et puis je me tranquillise en faisant de petites restrictions mentales. Et puis, je signe l'acte de vente de mon âme. Je vends mon âme pour sauver mon corps. Et c'est ça le drame de la vie. On aura tous, une fois ou plusieurs fois, à faire ce choix. Vendre son âme pour sauver son corps. Voilà, c'est terminé. Je peux partir. Et en bas de l'engagement, je trace Vetrov. C'est un nom de code. Ces six lettres dessinent au fer rouge dans ma mémoire des craquelures honteuses. Et pourtant, maintenant, il voit ce qu'il a, il a été capable. Souvenez-vous, c'est un capitaine d'artillerie qui a connu la guerre et qui a été capable d'héroïsme pendant la guerre, humainement. Et pourtant, je voulais mourir avec les hommes. J'étais prêt à mourir avec eux. Que s'est-il passé pour que je me retrouve vivant parmi les chiens? C'est ainsi qu'on capture les oiseaux, en commençant par le bout d'une patte. Ça aussi, il faut attention à un compromis. Il y a le compromis a une logique. Alors parfois, bien sûr, on ne pousse pas la logique jusqu'au bout parce que les hommes sont illogiques. Alors tant mieux quand c'est pour le mal et dommage quand c'est pour le bien. Mais n'empêche que le compromis a une logique. Mais par affection spéciale émanant du ministère, je fus extrait du camp et envoyé dans une autre zone. Et donc cela me sortit d'affaire. Jamais je n'eus plus à signer Vetrov. Mais aujourd'hui encore, je me recroqueville quand je rencontre ce nom. Oh, qu'il est difficile de devenir un homme. Même quand on a été au front, même quand on a subi des bombardements et qu'on a sauté sur des mines, ce n'est encore que le début du courage, ce n'est pas encore tout. Oh, qu'il est difficile de devenir un homme. Et les enfants le savent déjà. Pourquoi les enfants mentent si facilement? Pourquoi les enfants mentent si souvent? Par peur, par intérêt. Ils vendent leur âme pour sauver leur corps. L'enfant le sait très bien, cela, que c'est difficile d'être un homme. Mais est-ce que nous, hommes, avons-nous aussi oublié cette difficulté? Parce qu'on a beau ne plus être enfant, la difficulté est la même. On peut vendre son âme pour sauver son corps. C'est difficile d'être un homme, et on le voit bien avec les persécutions. Nos livres d'histoire et nos livres pieux nous parlent, cette phrase est bien connue de Tertullien, le sang des martyrs et la semence des chrétiens. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous l'ai déjà dit, pour un martyr, combien d'apostats? Pour un martyr, combien d'apostats? Il y a eu des graves crises dans l'Antiquité chrétienne, justement, après les persécutions, les apostats revenaient en masse. Ils avaient eu peur. Ils avaient vendu leur âme pour sauver leur corps. Alors comment faire? Quelle pénitence leur donner? Ça, c'était de grandes disputes. Quelle pénitence leur donner pour qu'ils reviennent dans la communion de l'Église? Donc en Russie judéo-communiste, vous le savez, on emprisonnait des innocents sur simple dénonciation mensongère. Et on demandait donc aux prisonniers, qui étaient accablés par la souffrance, de bien de reproduire pour d'autres ce qu'il avait lui-même privé de sa liberté. Faire une déposition mensongère. Et ça lui amenuisait sa peine. C'est de la folie. C'est du pur mensonge. Et pour cela, bien sûr, plusieurs techniques classiques. Quand on vous avait froid et faim, eh bien on vous convoquait dans une pièce chaude où on se sent bien, où on sent l'odeur de la cuisine. Et puis on explique aux malheureux, eh bien que s'ils ne se montrent pas idiots, eh bien on va pouvoir s'entendre, qu'il n'y aura plus jamais faim, qu'il ne manquera plus jamais de rien. Autrement, eh bien, nombreux sont ceux qui... La menace fait que nombreux sont ceux qui flanchaient. Mais ces techniques sont toujours pareilles. C'est pas la faim, c'est le travail, c'est la survie, c'est... Ces moyens-là ont toujours été malheureusement utilisés par les hommes. Celui-ci fait cette remarque. La faim de vivre est alors plus forte que la soif de vérité. Eh oui, parce qu'on a une partie animale, et notre partie animale est faite pour vivre. Donc il y a un vrai conflit entre la chair et l'esprit. Saint Paul et tous les évangiles ne le font que l'expliciter. Il y a un conflit entre la chair et l'esprit. Ben, pas tout le temps, mais il y a des moments où il y aura des conflits. Et d'autant plus violent en nous que la faim de vivre est parfois plus forte que la force de l'esprit, la soif de vérité. Et Solzhenitsyn raconte un exemple d'un prisonnier qui va se mettre à écrire tout ce qu'on lui dictait. Il va calomnier 24 personnes sur lesquelles il n'en connaissait au demeurant que 4. Et durant tout le temps de l'instruction, on lui donne à manger, mais jamais assez de façon à pouvoir recommencer à jouer sur la faim, à la première tentative de résistance. Et en lisant les quelques notes qu'il rédigea sur sa vie avant de mourir, on frissonne. De quelle hauteur, dans quel abîme peut tomber un homme courageux? Parce que lui aussi, ce n'était pas une crapule en soi. Dans laquelle chacun de nous peut tomber. Saint Paul, là encore, ce sont les, c'est les messages, ces messages, cette expérience humaine, c'est ce constat de l'expérience humaine, c'est l'enseignement de Saint Paul aujourd'hui. Celui qui se croit debout, qu'il prenne garde, il va tomber. Chacun de nous peut tomber. Et les 24 personnes qui ne se doutaient de rien, eh bien, furent prises pour être soit fusillées, soit condamnées à des nouvelles peines. Aussi simplement que cela. Donc les gens mentaient parce que les gens avaient peur. Peur pour leur peau. Voilà pourquoi la machine infernale du goulag a tourné si longtemps. Et le Christ, là encore, donne la solution. Elle n'est peut-être pas facile ni évidente, mais c'est la seule. Il nous a appris à ne pas chercher à sauver notre vie à tout prix. Mais il nous a plutôt appris, et même engagé, à porter la croix. Il nous a surtout appris à ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien, dit notre Seigneur. Ils tuent le corps et après qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Taper sur un corps mort, qu'ils y aillent, ça ne changera rien. Et l'âme, ils n'ont plus aucun pouvoir sur l'âme. Aucun pouvoir sur l'âme. Et le Christ concluait ce constat. « Moi, je vais vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a encore le pouvoir de jeter dans la géhenne de feu. Oui, je vous le dis, craignez celui-là. » Celui-là, c'est Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. Donc la mauvaise peur, eh bien, paralyse. Elle empêche toute réaction sociale salutaire. Seule la peur... la peur que nous a enseigné du Christ, oui, craignez celui-là, peut libérer la société, peut nous libérer, d'ailleurs sauver notre âme, et libérer la société de la tyrannie et de l'esclavage. Vous comprenez bien que si la masse n'a pas cet héroïsme-là, eh bien la société tombe dans la tyrannie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc la mauvaise peur paralyse et empêche toute réaction sociale. Parce que la plupart des hommes, eh bien, sont comme un poisson qui ne lutte pas contre la pêche, c'est une image de Solzhenitsyn, mais qui cherche seulement à passer entre les mailles. Peu d'hommes agissent en vue du bien commun, mais uniquement de leur bien privé. Alors bien sûr, on a un bien privé à protéger et à sauver, évidemment. Mais quand il y a une hiérarchie, un conflit, pas à tout prix. On n'a pas à sauver sa vie à tout prix. Et donc l'absence de vertu dans la masse fait que rares sont ceux qui sont prêts à mourir ou à risquer une peine, eh bien pour éviter un mensonge qui pourtant sera criminel. Il y en avait tout de même. Après sa libération et sa réhabilitation, donc après 10 ou 15 ans de goulag, Solzhenitsyn raconte le cas d'un professeur de biologie et de chimie qui s'appelait Georges Stepanovitch Mitrovitch, un Serbe, qui avait fait lui 10 ans de goulag à la Kolyma et qui se battait, malgré qu'il soit en liberté, après avoir fait 10 ans, eh bien il se battait sans relâche contre toute injustice. L'injustice le révoltait, quelle qu'elle soit. Voici ce que rapporte Solzhenitsyn. Il était accepté à l'école et là il avait transporté là tous ses efforts. L'iniquité, on l'a rencontrée à chaque pas dans le village, dans l'école, compliquée par l'ignorance des gens, par la suffisance du sauvage et par leur manière ingénue de céder entre familles alliées. Bref, la mafia qui régnait. Cette iniquité était gluante, épaisse, intransperçable, mais Mitrovitch la combattait, certes. Lénine à la bouche. C'est-à-dire que c'est pas, il combat l'injustice au nom de la raison humaine, naturelle. Ce n'est pas un chrétien. Il la combat avec Lénine. Bien sûr que l'argument n'est mauvais, mais la réaction est bonne, même si l'argument était mauvais. Et remarquez que la plupart des gens qui ont réagi courageusement contre l'imposture du Covid, la plupart ne sont pas chrétiens. Hein. Il y en a qui sont athées, il y en a qui sont païens, il y en a qui sont farfelus, je dirais politiquement et religieusement. Mais là, il y a une évidence, il y a un mensonge, ils ont eu le courage, ils ont pris des risques. La plupart, je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui n'ont pas réagi, évidemment, mais dans ceux qui vraiment ont été des moteurs, avec des vrais risques, avec un vrai investissement, ce n'est pas des chrétiens. C'est la raison naturelle, là, une force naturelle, un courage naturel, qui montre bien que le péché originel nous a blessés, mais pas tués complètement. Il y a encore quelque énergie. Mais sur un domaine précis, pas sur tout, on n'arrive pas, il faut la grâce pour arriver à maîtriser tout le domaine. Donc, Mitrovitch combattait avec désintéressement et abnégation. Il tenait à tous les conseils pédagogiques et aux assemblées des instituteurs. Il recalait aux examens aussi bien les fonctionnaires ignorants, donc, il empêchait donc la corruption de se faire, qui s'est présenté comme candidat libre, que les élèves qui avaient fourni leurs moutons. Il envoyait des réclamations au chef-lieu de la province, des télégrammes au nom de Khrouchtchev. Il exigeait des vérifications, réclamait des inspecteurs, et ceux-ci arrivaient et se retournaient contre lui, parce que la mafia était plus forte. Il écrivait de nouveau, et il se voyait alors accusé de faire aux enfants de la propagande anti-soviétique. Et là, on était à un doigt de l'arrestation. Il était renvoyé, puis repris. Alors il se faisait indemniser les journées de travail perdues. Vous voyez, le gars, il se bat. La justice, l'honnêteté. On le mutait dans une autre école, il n'y allait pas, alors on le renvoyait de nouveau. Ah, la belle bagarre. Si je m'étais joint à lui, à nous deux, eh bien, qu'est-ce qu'on leur aurait mis? Cependant, je ne lui apportais aucune aide. Je gardais le silence. J'évitais certes de prendre part au vote décisif pour ne pas être contre lui. Mais je m'éclipsais en prétextant une réunion à un cercle d'études, à un rendez-vous avec les élèves. Ces membres du parti qui se présentaient comme candidats libres, je ne les empêchais pas d'obtenir la moyenne, libre à eux de tromper le pouvoir même qu'ils représentaient. Mais je dissimulais mon dessein. J'écrivais sans arrêt, je me réservais pour un autre combat à venir. Donc s'il ne l'aide pas, c'est parce que c'est un micro-combat, et lui, il est en train d'écrire en cachette l'archipel du Goulag, qui est le livre évidemment le plus important que ce combat anecdotique. Voilà pourquoi il ne l'accablait pas, mais il ne l'aidait pas. Mais la question qui se pose est plus large. Mitrovitch avait-il raison de se battre? Était-ce nécessaire? La lutte qu'il menait était de toute évidence promise à l'échec. On ne pouvait espérer remuer cette patte. Et quand bien même il eût emporté une victoire complète, cela n'aurait pas suffi à améliorer l'ordre régnant, le système dans son ensemble. On aurait seulement vu luire faiblement, à l'endroit lavé, une petite tache claire au contour bien délimité, puis le gris aurait de nouveau tout envahi. Même en se plaçant dans le meilleur des cas, cela ne valait pas la peine qu'il courût le risque de se faire arrêter une seconde fois. Alors, combat sans espoir que le sien. Mais non, c'est un trait humain de s'indigner devant l'injustice. En fait, ce combat-là est un signe de vie intérieure. S'il y a plus ce combat-là, s'il y a plus ce désir, ce combat contre l'injustice, contre le mensonge, ben, il y a un ressort cassé à l'intérieur. C'est là. Dut-on, dans cet élan, courir à sa perte? Oui. La lutte de Mitrovitch était acculée à la défaite. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle était vaine. Ah, retenons cette phrase. Retenons cette phrase. La lutte de Mitrovitch était acculée à la défaite. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle était vaine. Il avait raison de se battre. Il avait raison. Il se maintenait en vie intérieure, naturellement. Peut-être que Dieu lui aura même fera une grâce plus grande. C'est le secret de Dieu. Si nous n'étions pas si raisonnables, tous tant que nous sommes, si nous ne répétions pas les uns aux autres d'un ton géniard, ça ne servira à rien, c'est inutile. Bien, si on arrêtait cela, notre pays, disait-il, serait tout autre. Et la masse dit, c'est inutile de se battre. En fait, elle casse elle-même son retard intérieur. Il n'y a plus de réaction possible. Et c'est pourquoi notre monde aujourd'hui mérite l'esclavage de l'antéchrist, de manière générale. Et il l'aura. On y aboutira. Ça ne sert à rien d'être juste. Ça ne sert à rien de se battre contre le mensonge. Mitrovitch n'était même pas un citoyen à part entière, c'était un relégué. Mais les éclairs qu'il lançait les éclairs que lançaient ses lunettes faisaient peur aux autorités de Rion. Donc un ancien détenu, par un courage et par un sacrifice, une abnégation complète, faisait un peu trembler le système. Et si ça avait été des nobles, des personnes en place, des personnes politiques, bien sûr qu'ils auraient risqué leur peau. Mais on peut pas. Ce choc frontal aurait fait que le système ne pouvait pas durer. Il faut, la phrase que notre Seigneur nous disait, hein, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut mettre dans la géhenne de feu après. Et notre Seigneur l'a dit à ses disciples, à ses apôtres. Il ne faut quand même pas oublier que tous les apôtres ont été arrêtés, ont fait de la prison, ont été arrêtés par la police, ont été considérés comme des fauteurs de troubles, comme des impies, comme des gens subversifs, et sont morts. C'est ça nos origines. Là encore, c'est pas pour rien que le Christ a voulu mourir dans les conditions très particulières de la passion. Alors, nous, eh bien, cherchons à faire de notre âme, eh bien, dans ces temps apocalyptiques, il faut chercher de faire de notre âme une maison de prière, c'est tout. Notre mission n'est pas de sauver le monde, mais de sauver notre âme. En luttant contre la justice, en ne pactisant pas avec le mensonge, etc. Autant que, on n'est pas, comme ce jeune-ci, on n'est pas obligé de rentrer dans toutes les batailles. Remarquez-le bien. On n'est pas obligé de rentrer dans toutes les batailles. On a une question de temps, une question d'intérêt, de hiérarchie, Mais ultimement, il y aura des moments où il ne faudra pas sauver son corps en perdant son âme. C'est un mauvais calcul. Donc pour cela, ce monde doit nous aider, en fait, eh bien, à nous détacher du monde. Parce qu'il n'y a plus rien d'attirant dans le monde. Il y a de moins en moins de choses attirantes dans le monde fait par les hommes. Parce que dans le monde fait par Dieu, oui, il reste beau, Dieu merci. Donc il faut chercher à faire de notre âme une maison de prière. Et quand l'heure du témoignage ultime viendra, face aux forces ténébreuses, eh bien il ne faudra ne pas avoir peur. En étant humble, en sachant bien que ce sera une grâce de Dieu de ne pas avoir peur. Donc il faudra la demander, cette grâce. Et au moment de la tentation, eh bien, Dieu vous donnera, dit l'Épître, vous donnera le pouvoir d'y résister. À condition, eh bien, que nous soyons prêts aussi à sacrifier notre vie à l'exemple du Christ. Parce que c'est ça. Si on accepte d'imiter le Christ et de le suivre, alors il y aura les grâces qui suivront. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
On leur dit « eux gentils », ils disent « ok ». On leur dit « eux méchants », ils disent « ok ». Qu'est-ce qu'ils sont cons ? On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où. Surveillez vos amis, restez planqués chez vous. Nos démocraties sont en danger partout. On leur dit insécurité. On dit état policier, allez. Paniquez, 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 paniquez. Paniquez, paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards qu'un moyen qui baisse docilement leurs culottes et qui nous bouffe dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites de plus en plus chaud, faites de plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyen qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Satan qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distraite, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Ok, ok, inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.